Et si tout va bien, nous sommes normalement au téléphone avec Valérie Simonet. Valérie Simonet, présidente du conseil départemental de la Creuse. Madame Simonet, vous m'entendez ?
Oui, bonjour à tous.
Bonjour à vous. Donc vous êtes présidente du conseil départemental de la Creuse. Est-ce qu'on peut commencer par faire un point sur la situation en Creuse un mois après le début du confinement ?
Un point, ça serait difficile. Il y a tellement de sujets sur lesquels nous pourrions échanger. Moi, je pourrais vous dire sur aujourd'hui ce qu'est le fonctionnement depuis le 17 mars donc du conseil départemental, des services du conseil départemental. Nous avons pris la décision de protéger à la fois nos agents et les usagers qui avaient l'habitude de venir au contact de nos services. Et dès le 17 mars, on s'est organisé pour mettre aussi nos agents en mode confinement, ce qui nous a permis de mettre en place les outils, les moyens qui nous permettaient de continuer d'assurer nos missions de service public. Aujourd'hui, nous avons à peu près sur 1000 agents, nous avons 300 agents qui sont en télétravail, donc à leur domicile. Alors, il a fallu trouver les outils numériques, que ce soit des ordinateurs. Quand ce n'était pas possible, ce sont les propres ordinateurs des agents qui sont utilisés. Il a fallu aussi qu'il y ait, depuis leur domicile, une connexion Internet suffisante en capacité, ou quand elle existe en effet, pour utiliser ce télétravail. Des smartphones aussi qui permettent de continuer d'être présents. Donc les services du conseil départemental sont fermés physiquement, tous les services, en particulier nos unités territoriales d'action sociale. Cependant, nous assurons la réponse aux appels qui nous sont faits, donc les standards, là aussi, à domicile, on a organisé tout ça. Nous assurons des permanences téléphoniques, des rendez-vous téléphoniques. Donc on peut nous appeler et on tâche d'apporter des réponses ou des solutions comme on le ferait de visu. Et puis bien sûr, pour des services où là la présence est indispensable, je pense en particulier au pôle social, nous assurons des rendez-vous usagers, soit en se déplaçant à domicile, soit par des permanences physiques. Et là aussi, on a donc équipé nos agents qui remplissent ces missions-là, et bien ce qu'on appelle des équipements de protection, donc que l'on connaît bien maintenant aujourd'hui, qui sont blouses, charlottes si besoin, lunettes si besoin, masques chirurgicaux ou masques FFP2. Voilà. Et ces services-là, ils étaient pour nous indispensables en ce printemps parce que nous assurons avec nos services de protection maternelle et infantile le suivi de certaines femmes enceintes, les suivis post-accouchement, le suivi des nourrissons, les vaccinations nourrissons, les conseils, la délivrance de contraception, etc., etc. Et puis peut-être un autre volet aussi important, là aussi on en parle beaucoup, le confinement fait que certaines familles que nous accompagnons habituellement, qui rencontrent quelques problèmes, que ce soit jusqu'aux violences intraconjugales ou bien aux informations préoccupantes quant à la bienveillance autour des enfants, là aussi on est présent, on n'a surtout pas relâché notre présence dans ce domaine-là et on travaille avec la justice et voilà, eh bien on fait ce que l'on a à faire, mais on est particulièrement vigilant dans ces circonstances-là.
Vous l'avez expliqué, 300 salariés du conseil départemental qui sont en télétravail. Les autres salariés sont en chômage partiel. Les collectivités peuvent bénéficier de ce dispositif ?
Non. On ne bénéficie pas du chômage partiel dans la fonction publique. Donc, les gens sont chez eux, mobilisables en cas de besoin et perçoivent leur traitement comme ils le perçoivent habituellement. Et donc, payés par le conseil départemental, par la collectivité.
Vous l'avez expliqué, le conseil départemental continue à gérer beaucoup de ce qu'on peut appeler les affaires courantes. Vous avez dû mettre un coup d'arrêt à vos différents projets ?
C'est vrai qu'on n'est plus trop en format projet, on est quasiment à 100% en format service. service au public, je le disais tout à l'heure sur le pôle social, et puis service aux collectivités. Par exemple, là aussi, dans cette période de crise, on essaie de se mobiliser aussi pour être en appui, alors à la fois aux communes, aux intercommunalités, mais à l'État, finalement, on le sait aussi. Vous savez, par exemple, que sont autorisées aujourd'hui, mais avec des conventions spécifiques, l'intervention des laboratoires départementaux d'analyse, où là, on a des activités autour du suivi de la qualité des eaux, du suivi voilà, de la restauration collective, etc., des normes d'hygiène, etc. Donc tout ça, c'est plutôt au coin mort pour l'instant. Et puis les analyses vétérinaires, sérologie bovine, etc. Donc on est exclusivement sur ces commandes, celles-ci en tout cas, que l'on a l'habitude de réaliser. Mais il ne faut pas grand-chose pour qu'on passe en format opérationnel, pour demain pouvoir vraiment être en appui de l'État pour justement pratiquer des analyses, ce qu'on appelle les analyses sérologiques, grand public, qui permettront, en tout cas c'est théoriquement ce que les médecins prévoient et souhaitent fortement, de pouvoir tester, entre guillemets, l'immunité. Je ne parle pas de savoir si on est positif ou pas à l'instant T du Covid, mais de tester l'immunité sérologique de la population, à savoir si vous avez été en contact ou pas avec le virus, et donc si vous êtes théoriquement en capacité de retourner après, en post-confinement, de retourner voilà, à vos activités habituelles parce que vous avez déjà été, entre guillemets, presque vacciné. Bon, j'arrange un peu les termes, mais en fait, voilà. Donc les laboratoires départementaux sont en capacité d'accompagner les laboratoires de biologie humaine pour aller plus vite, justement, dans cette phase de déconfinement qui maintenant est entre guillemets annoncé à partir du 11 mai.
On va revenir sur cette annonce d'Emmanuel Macron. Le conseil départemental de la Creuse, comme l'essentiel des collectivités, tourne au ralenti. Néanmoins, des missions sont toujours assurées, des services sont toujours assurés. Quelles actions spécifiques ont été mises en place par le conseil départemental de la Creuse depuis le début du confinement ?
Alors, c'est vraiment, vraiment d'être en capacité de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les habitants de notre département. Donc je voulais expliquer pour ceux qui étaient en besoin d'accompagnement social dans un sens large. Je voudrais aussi peut-être parler de l'école à la maison, entre guillemets. Vous savez que dans les compétences des départements, nous accompagnons les collèges. L'éducation nationale s'occupe de l'éducation. Nous occupons du volet tout à fait matériel, immobilier. Et donc, nous avions déployé depuis 2 ans, parfois un peu bon gré mal gré, mais nous avions tenu à une harmonisation à l'échelle départementale dans tous nos collèges de ce qu'on appelle l'environnement numérique au travail, les fameux ENT, qui sont des plateformes de collaboration, d'information entre les familles, les enseignants, et qui aujourd'hui sont fortement utilisées pour que justement les collégiens puissent continuer à accéder aux cours que leur proposent leurs enseignants, voilà, des plateformes de recherche, etc. Je voudrais quand même dire que on creuse, on a des informations, on est un des départements à un taux record de connexion à cet environnement numérique au niveau des collèges. Donc ce qui veut dire que, là encore, quand on a pu permettre aussi à ceux, aux familles qui n'avaient pas d'outils numériques de leur en procurer, eh bien on a un taux de suivi des enseignants pour les collégiens qui est vraiment remarquable. Donc là aussi c'est important, je crois, dans cette phase, de ne pas couper les enfants, les familles de l'éducation nationale. On a aussi tenu à continuer à travailler avec les collectivités, je vous le disais. Donc on porte un certain nombre de politiques, on va dire qui sont du pratico-pratique avec les intercommunalités, les communes, que ce soit dans le cadre de l'instruction des dossiers de permis de construire, par exemple, où là aussi on s'est mis en format pour continuer à accompagner l'instruction de ces dossiers, parce que après la crise, eh bien, le bâtiment va reprendre et il ne faut pas perdre de temps non plus pour relancer les activités économiques des entreprises du département. On travaille aussi, on va faire une commission permanente probablement par visio le 15 mai, On travaille aussi à apporter à minima au moins les aides que l'on apportait, même si les activités vont être fortement en baisse cette année, pour les subventions que l'on apportait aux associations sportives, culturelles, parce que là aussi, on sait qu'il y a des salariés, il ne faut pas que les activités n'existent plus passé cette crise. On verra ce qui se passera cet été après, mais surtout l'année prochaine, il faut que ces associations puissent perdurer. On réfléchit aussi aux côtés de l'État et de la région, là puisque ça va nous être permis en ces temps de crise, à quelles aides économiques on pourrait apporter pour les artisans en particulier. Je pense beaucoup aux commerçants aussi qui sont dans l'obligation d'être fermés donc depuis plus d'un mois, et on sait que ça va continuer. Les cafés, les restaurants, tous les petits commerces, etc., ou qui sont assez fragiles avec peu de salariés, voire pas du tout. Donc là aussi, il ne faut pas qu'on les laisse tomber. Donc on va essayer d'être aux côtés de la région et de l'État pour vraiment, et des intercommunalités aussi, pour vraiment les soutenir au maximum pour qu'ils puissent reprendre leur activité un peu plus sereinement. Que puis-je vous dire aussi, peut-être aussi que nos agents des routes sont quasiment les autres tous chez eux, mais qu'ils sont prêts, ils ont envie de reprendre le travail, et que bientôt il va falloir repenser à l'entretien des routes. Donc là aussi, on se remet en format aussi pour savoir comment on va réorganiser les équipes pour qu'ils puissent respecter les mesures, les gestes barrières, etc. Et puis peut-être une action qui est essentielle parce que on a compris avec beaucoup de déconvenues les difficultés qu'avait l'État et le gouvernement à procurer un certain nombre d'outils indispensables dans la lutte contre cette maladie. Et on est très proche de nos établissements médico-sociaux, des EHPAD. On travaille aussi avec la préfète, l'ARS, la DDCSPP, la CAF, à être vigilant sur les besoins qui apparaissent au niveau du tissu médical, que ce soit donc les hôpitaux, les SIAD, mais aussi tout le tissu des médecins, des infirmières libérales, à savoir qu'ils doivent disposer pour prendre en charge les patients malades de matériel indispensable de protection, se protéger eux-mêmes, protéger aussi les autres patients non atteints, et bien sûr qu'en premier lieu, je pense à ces fameux masques, alors les masques chirurgicaux, les masques FFP2, mais aussi les surblouses, les surchaussures, etc. Donc on a, je crois, l'immense chance d'être dans un département où tout le monde se connaît, tout le monde est solidaire. Ça, je veux vraiment le saluer parce que c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre département. Et en fait, on est sur de l'idée, la bonne idée qui se transforme, qui se teste et qui se transforme à grande échelle. Donc on a organisé une commande avec nos collègues d'autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine dernièrement de masques de protection. On nous avait dit que peut-être là aussi il serait intéressant de demander aux collectivités, aux communes, si elles avaient des besoins elles-mêmes. On sait combien c'est difficile d'accéder à ces commandes, donc on a fait un groupement de commandes. Et en même temps, je leur ai demandé de savoir s'ils voulaient faire des dons pour que nous puissions aussi constituer avec les participations du département un stock tampon de masques que l'on pourrait mettre à disposition si l'ARS venait à manquer de masques. Bon, on leur a donné, à peine arrivés les masques, on leur a donné jeudi dernier, parce que oui, l'État apparemment rencontre encore plus de difficultés que les collectivités pour avoir en quantité importante ces masques. Une autre idée assez simple et géniale, vraiment je veux souligner cette ingéniosité, les infirmiers libéraux ont constitué un réseau WhatsApp où ils échangent, etc., sur comment on va faire, comment on va s'organiser, etc. Et une infirmière avait certainement sous la main un voile d'hivernage, voilà, qu'on achète dans le commerce, et a essayé de se faire une surblouse jetable avec sa machine à coudre. Ça a super marché, et on a demandé à un réseau de couturières de voir si elle pouvait se mettre à coudre ses voiles d'hivernage en quantité beaucoup plus importante, afin de les mettre à disposition, alors en premier lieu des libéraux, mais peut-être demain finalement des hôpitaux, des EHPAD. Et donc ce sont les couturières de la fresque de Bridier qui ont inventé la super surblouse qui va bien, encore mieux que le prototype initial, et donc la production est lancée aujourd'hui à l'échelle du département. Et là aussi, finalement, je me dis que on a la chance d'être en 2020 parce que ce sont les outils numériques, les réseaux sociaux qu'on raille parfois un peu, etc., qui nous permettent d'aller très vite, de connecter les gens et de connecter ces élans de solidarité qui font que tous ensemble, on trouve des solutions qui sont opérantes et très rapidement. Donc, sur cette question-là, on a des contacts. On a contacté les réseaux Gamme Vert, Natea. Ils nous ont cédé à prix coûtant leur voile d'hivernage qu'on a récupéré en grande quantité. Le réseau des couturières est en train de travailler. Et on va avoir de quoi aussi pouvoir accompagner les libéraux, en particulier du territoire. Et donc, là, encore une fois, on a vraiment utilisé à bon escient ce temps qui nous était donné pour nous préparer au pire.
Valérie Simonet, vous êtes présidente du conseil départemental de la Creuse. Vous êtes également infirmière libérale sur le terrain depuis le début du confinement. Pourquoi avoir repris cette activité d'infirmière libérale et pourquoi vous rendre sur le terrain ?
En 2015, en avril 2015, lorsque nous avons été élus, mes collègues et moi, à la majorité, je me souviens que l'un d'eux me dit « Valérie, demain tu vas être présidente du conseil départemental, il va falloir que tu arrêtes de travailler ». Et ça a été pour moi un choc, un drame, parce que c'était à l'époque 27 ans de libéral, de contact fort avec les gens, on va chez eux, on les connaît de génération en génération. Et c'était très compliqué pour moi d'arrêter définitivement. Donc en fait, mes collègues ont été adorables et dans le cabinet dans lequel je travaillais, elles m'ont garder de façon épisodique pour leur donner un coup de main, pour les remplacer pour des vacances ou quand l'une avait des problèmes de santé. Donc en fait, depuis 2015, j'ai peu travaillé, mais je n'ai jamais vraiment arrêté de travailler, je n'ai jamais vraiment perdu ce contact avec l'exercice libéral. Ce qui m'a permis aussi de continuer à me former un peu aussi, de ne pas perdre la main. Et donc lorsque la crise est arrivée, bien sûr que là aussi a été fait appel à ceux qui étaient disponibles, que ce soit d'ailleurs dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et aussi donc mes collègues m'ont dit écoute, tu pourrais peut-être nous aider, parce que il faut dire aussi, là aussi je veux souligner quel est l'engagement des libéraux, qu'aujourd'hui, travailler avec des blouses, des surblouses, des masques, prendre encore plus de précautions que d'habitude, c'est extrêmement stressant, ça prend plus de temps. Et les libéraux qui accompagnent au quotidien les habitants, les patients de nos territoires, ils se fatiguent encore plus. Donc c'est vrai que de leur donner un petit coup de main de temps en temps, en ce moment, c'est à la fois les soulager, à la fois les préserver eux aussi, les rendre plus disponibles, leur permettre de se reposer aussi, et puis de s'organiser. Et c'est vrai que j'ai fait des remplacements ces derniers temps pour mes collègues, et puis peut-être l'idée aussi d'organiser ce que beaucoup ont fait, d'organiser des tournées spécifiques où là où il y a des patients un peu plus fragiles, parce qu'ils présentent des risques spécifiques de contamination qui pourraient être beaucoup plus graves que pour d'autres personnes s'ils étaient contaminés avec le virus, fait que les libéraux s'organisent pour là aussi ne pas être en contact de tous les patients et d'être un peu plus spécifique pour des patients malades ou des patients fragiles. Donc là aussi, depuis quelques jours, elles m'ont un petit peu fléché pour m'occuper de personnes qui sont un peu plus qui présentent un peu plus de risques et plus fragiles. C'est un peu aussi de se dire qu'on est utile tout au long de sa vie, quelles que soient nos compétences, et que en cas de crise, chacun est là avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il peut faire pour participer justement à ce que peut être la solidarité à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale bien sûr.
En tant qu'infirmière libérale, que constatez-vous sur le terrain ? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre des cas ? Et dans quel état d'esprit se trouvent les personnes chez qui vous vous rendez ?
Alors, c'est assez, assez compliqué à décrire. Alors, les personnes, évidemment, sont rivées à leur écran de télévision. En tout cas, les premiers jours, les premières semaines, c'était certain. On ne sait pas tout et tant mieux, mais on entend, on voit. Et je pense que beaucoup, peut-être qui n'en avaient pas conscience au début, ont compris que ils étaient en danger parce que nous sommes un département où il y a beaucoup de personnes âgées et fragiles. qui présentent voilà ce que l'on sait, les pathologies, le diabète, les insuffisances cardiaques, respiratoires, qui font que là aussi, si jamais ils contractaient cette maladie, ils sont beaucoup plus à risque. Donc aujourd'hui, tout le monde fait quand même beaucoup plus attention et prend les choses au sérieux. Donc là aussi, c'est du stress. Une organisation qui a fait que, ben, au début, tout le monde s'est dit, oula, on va limiter les interventions, c'est chez gens fragiles, que ce soit en effet les intervenants habituels, je vous parlais tout à l'heure des libéraux, mais aussi dans le cadre des structures d'aide à domicile. On s'est dit, plutôt que d'avoir 4-5 interventions par semaine, voire peut-être plus, on va limiter, on va s'organiser autrement. Et donc du coup, au bout de 4 semaines, les gens ont l'impression qu'ils sont un peu plus seuls qu'auparavant. Ils avaient pris des habitudes, donc là aussi, il faut qu'ils se réorganisent. Et ceux qui sont âgés et isolés, c'est d'autant plus compliqué pour eux. Donc là aussi, je voudrais saluer les initiatives qui sont vraiment nombreuses partout, ce sont celles des maires. Des conseillers municipaux qui ont organisé des réseaux, qui passent des coups de fil, qui font des courses, qui vérifient, voilà, qui sont là présents pour soutenir aussi les personnes les plus isolées. Et puis, de se dire que cette crainte, elle existe. Aujourd'hui, si on sait qu'on est moins touché probablement dans le département de la Creuse parce qu'il y a moins de population, moins de mouvement de population que dans les villes, aujourd'hui, on est assez inquiet parce que deuxième vague en post-confinement, et que finalement on nous dit mais peut-être que nous on a été confinés au bon moment pour que le virus ne circule pas trop, mais du coup est-ce qu'on est suffisamment immunisé, et quand on va ressortir, est-ce qu'on va pas à ce moment-là être contaminé? Donc c'est pour ça que l'inquiétude, je vous parlais tout à l'heure des laboratoires départementaux d'analyse, l'inquiétude de ce déconfinement annoncé, c'est de savoir si on va pouvoir tester les gens et faire un déconfinement progressif, ça je pense que c'est ce qui se fera, mais qu'on puisse aussi ne pas laisser fermer chez eux des personnes âgées qui ne présenteraient pas de risque, auraient été en contact et n'auraient pas développé de symptômes. Donc voilà, de se dire qu'il y a des âges, etc., et que des personnes âgées devraient rester confinées encore plusieurs mois, enfin c'est très difficile à entendre pour ces personnes-là, et ça va occasionner beaucoup de stress aussi. Donc là, il faut que le gouvernement, bon, c'est ce qui est annoncé, puisse nous apporter un plan, une visibilité sur comment on va faire, comment on va soutenir ces gens-là, comment on va pouvoir intervenir et faire en sorte qu'elles ne soient pas encore plus isolées qu'elles ne sont jusqu'à présent.
Oui, on va revenir sur la gestion de cette crise par le gouvernement et Emmanuel Macron. Avant, je voudrais qu'on revienne un peu sur le matériel dont a besoin le personnel soignant, les masques, le gel hydroalcoolique, les blouses, les surblouses. Vous avez déclaré dans la montagne le 17 mars, donc au tout début du confinement, j'ai pu constater le manque d'accès à des moyens de protection pour les soignants. Vous êtes présidente du conseil départemental de la Creuse et aussi infirmière sur le terrain. Concrètement, où en est la distribution de ce matériel au personnel soignant? Vous, par exemple, est-ce que vous disposez du matériel nécessaire à votre activité d'infirmière sur le terrain?
Alors, aujourd'hui, je dirais depuis 3 semaines, je pense qu'on est en 3e semaine, où l'ARS distribue dans les officines, donc les pharmacies, un nombre voilà, qui a été décidé par l'ARS, l'État, de masques chirurgicaux pour chaque soignant, chaque semaine. Depuis un peu plus de 2 semaines, ce sont maintenant des masques FFP2. Je crois que le nombre est de 9 par professionnel libéral. C'est tout ce que distribue l'ARS. Pour ce qui est des surblouses, des surchaussures, des charlottes, du gel hydroalcoolique, c'est aux professionnels libéraux de s'en équiper. Sauf que le problème est en effet que sur nos fournisseurs habituels de matériel et équipements médicaux, il n'y a plus rien. Ou alors, il y a, mais avec des livraisons qui ne sont pas assurées, sinon dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, il me semble qu'à l'échelle nationale, en tout cas je l'espère, le gouvernement est en train de mettre en place sur un plan plus industriel ces fabrications, donc, mais en France, hein, et pas en attendant de commander à l'étranger, ces matériels que l'on peut fabriquer, donc à grande échelle, en grande quantité, pour pouvoir aussi les distribuer. Mais l'objectif, apparemment, aujourd'hui, est déjà de pouvoir assurer que ces équipements sont disponibles et en quantité suffisante dans les hôpitaux. On a des conférences téléphoniques régulières avec mes collègues et je peux vous dire que le choc a été grand pour moi de voir mon collègue Frédéric Bierry lancer un appel à tous les collègues dans les départements pour en semaine 1, les présidents pardon, du Bas-Rhin, donc c'est Strasbourg, Colmar, toutes ces régions très touchées de l'Est, pour en première semaine nous demander si on pouvait leur faire passer des masques, en deuxième semaine si on pouvait leur envoyer des respirateurs, et en troisième semaine si on pouvait leur envoyer des agents de nos collectivités, infirmières et compagnies de PMI, pour les aider parce qu'ils sont démunis de tout. Ils ont pris la crise de plein fouet, sans que personne n'ait pu mesurer ce qui se passait, et sans qu'il y ait les outils et les moyens et les organisations, contrairement à nous, parce que nous avons eu 4 semaines pour nous organiser. Donc c'est assez catastrophique. La vague arrivée à Paris, c'est la même chose. On se demande si on ne va pas devoir réutiliser du matériel théoriquement jetable pour continuer à pouvoir équiper les soignants si la crise dure. Donc oui, j'espère qu'en France, on ne compte pas seulement sur les équipements que l'on doit commander à l'étranger. On a bien vu les difficultés que cela a occasionné avec d'autres pays qui achètent avant nous, sur les tarmacs des aéroports, etc. Et qu'en France, on est en capacité de produire un certain nombre de ces matériels indispensables. Donc nous, le département, on essaie de faire ce que l'on peut, mais à petite échelle. Donc oui, c'est ça aussi la difficulté que rencontre et qui occasionne du stress aussi pour les soignants, c'est que dans un petit département, on sait que tous les patients qui seraient malades ne pourraient pas aller à l'hôpital de Guéret, ni à l'hôpital du Sel, ni à l'hôpital de Montluçon, qu'il n'y aura pas assez de lits non plus pour prendre en charge les personnes très âgées, et que oui, il faut faire du maintien à domicile. Et c'est pour ça que le maintien à domicile nécessite, pour se faire dans des conditions absolument indispensables, que les soignants libéraux, mais aussi que les SIAD, mais aussi que les aides à domicile et les matériels de protection nécessaires. Il n'est pas question pour moi d'imaginer, enfin j'espère que le gouvernement a cette idée-là aussi, bien ancrée, de faire prendre des risques à des soignants, comme cela a été fait dans l'Est ou en région parisienne. Vous avez trop de soignants aujourd'hui qui sont contaminés par manque de moyens de protection, particulier pour ceux qui ont travaillé dans les services de réanimation ou les services de prise en charge des patients Covid+.
Valérie Simonet, si je comprends bien, pour aller à l'essentiel, un mois après le début du confinement, le personnel soignant dont vous faites partie ne dispose toujours pas du matériel suffisant, masque, gel hydroalcoolique, blouse, pour faire correctement son travail et le faire dans des conditions de sécurité optimales.
Il me semble qu'au niveau des masques, je ne peux pas dire le contraire avec les commandes, les réquisitions, l'apport du stock national, etc. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, mi-avril, il me semble que sont distribués depuis au moins 3 semaines les masques chirurgicaux FFP2 en quantité suffisante pour couvrir les besoins du département. Aujourd'hui, sont aussi disponibles ces masques pour les associations d'aide à domicile. Mais je ne saurais vous dire si dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, nous aurons encore suffisamment de ces masques. C'est une vraie question. Et là, je parle des besoins des personnels soignants en contact avec les patients, les malades ou les intervenants à domicile. Je ne saurais le dire. Il me semble qu'aujourd'hui, pourtant, c'est le cas. Mais les stocks, on n'a pas de vision dessus et... Voilà. Et si l'ARS réquisitionne les commandes qu'ont effectuées les collectivités, ça me laisse entendre qu'ils n'ont pas, sur le moyen et sur le long terme, suffisamment de stock. Je parle des masques. Sur les équipements qui sont autres, je vois bien que les libéraux en particulier, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, que ce soit là aussi les associations d'aide à domicile, doivent faire du système D pour s'équiper eux-mêmes. Ces équipements ne sont probablement délivrés par l'État que dans les hôpitaux.
Je voudrais revenir justement sur ce que vous appelez le système D. On en est à plus d'un mois de confinement désormais. Que pensez-vous de la gestion de cette crise sanitaire par Emmanuel Macron et le gouvernement? Vous venez de parler de système D. Moi, je pense à des particuliers, par exemple, qui fabriquent eux-mêmes des masques à leur domicile. J'ai vu un article sur un adolescent de 14 ans qui s'était engagé à réaliser lui-même 250 masques. Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion de crise?
Pour l'instant, je n'en pense rien. Pour l'instant, j'agis au mieux, de façon à coordonner, à répondre aux problématiques quand le conseil départemental le peut. Il est clair, et ça je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire, aux autorités compétentes, le conseil départemental de la Creuse, pas plus que les autres conseils départementaux, pas plus que les communes, nous ne sommes ni l'ARS, ni le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète un peu, c'est que on fait reposer, le gouvernement, le président de la République, font reposer sur les collectivités locales beaucoup de choses. Et il me semble que les collectivités locales, il y a peu de temps encore, on avait plutôt tendance à nous pressurer, à nous mettre des barrières, des limites, des seuils qu'il ne fallait pas dépasser en termes de dépenses publiques, etc. etc. Et c'est pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le gouvernement... en appel au maire, au président de département, en effet, pense que nous avons notre rôle à jouer. Très bien, j'espère que cela aura été compris par le gouvernement et par les ministères et qu'on ne nous tapera pas sur la tête comme on nous a tapé sur la tête depuis plusieurs années. Maintenant, quand je dis aussi, et je dis de prendre garde aussi aux responsabilités qui sont les nôtres, vous parlez des masques, alors on parlait de masques alternatifs, maintenant le président de la République a dit de parler de masques grand public. J'ai par exemple certains de mes collègues, la Mayenne, l'Allier, la Lozère, qui commandent, qui achètent, ou des maires de grandes villes aussi, qui commandent et qui achètent et qui vont distribuer un masque dit alternatif à chaque habitant du territoire. Très bien, le gouvernement dit encore il faudra des masques alternatifs. Quels sont les niveaux de protection de ces masques alternatifs? Moi, avant d'en acquérir et d'en distribuer à la population, je souhaiterais que l'État me certifie l'efficacité, les normes de ces masques. Parce que moi, demain, je sors ma machine à coudre, je vous fais un masque et je vous le donne. Vous allez le mettre sur votre visage, vous allez sortir, vous pensez protégé. Et si demain, vous êtes malade, ne pourrez pas vous dire, vous interroger sur le fait que bah, finalement ce masque qu'on vous a donné, qui avait aucune norme, aucune certification, ne vous a peut-être pas protégé et que c'était peut-être... voilà, j'ai voulu vous faire plaisir en vous disant que je faisais quelque chose et que je vous offrais un masque fabriqué avec un tissu. Quel tissu encore une fois, quand je parle de normes, quelle barrière est-il efficace, ce masque? Moi, j'en sais rien. Donc si demain, l'État me certifie une norme sur un masque dit alternatif tissu, à ce moment-là, oui, pourquoi pas, encore une fois, en acquérir et en distribuer. Ce que je sais aujourd'hui sur ces masques tissus, ce que je sais, mais moi, Valérie Simonet, c'est que il faudrait les laver chaque jour, les faire bouillir, et que probablement les fibres du tissu vont se détendre, et qu'au bout de 5 lavages, ils seraient quasiment plus efficaces, rien du tout. On dit que les masques, pour qu'ils soient efficaces, il faudrait qu'il y ait du feutre à l'intérieur, voire parfois des compresses, voire parfois je sais pas trop quoi. Ça me paraît jouer un peu à l'apprenti sorcier. Donc moi j'attends que l'État remplisse son rôle et certifie ces masques et garantisse la population que en effet, ce ne sont pas des masques chirurgicaux, voilà, qui sont labellisés, normés. Eh bien, les masques, une certaine fabrication de masques pourrait l'être et garantirait la population de leur efficacité.
Valérie Simonet, vous êtes présidente du conseil départemental de la Creuse. Vous êtes également infirmière libérale sur le terrain. En conclusion, que pensez-vous de la sortie progressive du confinement annoncé pour le 11 mai par Emmanuel Macron? Et vous l'avez expliqué, le conseil départemental à la charge des collèges. Est-ce que vous allez participer à ce titre, à la réouverture progressive des collèges et à réfléchir sur les différentes modalités pour le faire?
Alors, je dois vous dire que hier soir, tout particulièrement, j'étais moi aussi devant mon écran à les différentes informations qu'on pouvait avoir, et en particulier, je me suis beaucoup attachée aux paroles que pouvaient sur lesquels ils pouvaient échanger les virologues, les scientifiques, les médecins compétents en ces domaines. J'ai déjà retenu une première chose, c'est que tous étaient plutôt surpris du fait que quand on confine, les premiers qu'on confine sont les potentiels réservoirs. Et en l'occurrence, dans cette épidémie, on nous a dit que c'était les enfants. Asymptomatiques, mais qui ne pouvaient pas respecter les mesures barrières, qui continuaient de se toucher, de se bisouner, qui ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'un lavage des mains efficace, etc., etc., qui couraient ensemble dans des cours de récréation. Et donc, si on avait fermé les établissements scolaires, en premier lieu, c'est parce qu'ils étaient potentiellement les réservoirs. Et les scientifiques ont l'air plutôt surpris qu'on commence par déconfiner à réouvrir les écoles. Et en effet, pas les universités, où là, on a plutôt des jeunes adultes qui, aux autres, comprennent, savent ce que sont des gestes barrières, etc., mais qu'on déconfine les écoles, les plus petits. Donc là aussi, on s'interroge. Si demain, l'éducation nationale, le gouvernement nous dit, demain, le 11 mai, nous dit les collèges réouvrent, tous, pas tous, sur certaines conditions, etc., si en accord avec mon service de médecine préventive, si en accord avec mes organisations syndicales, avec mon CHSCT et les agents eux-mêmes, on est en capacité, nous, conseil départemental, sécuriser l'activité professionnelle de nos agents dans les collèges, je ferai comme les entreprises aujourd'hui auxquelles on dit vous respectez les normes, les mesures barrières, les équipements nécessaires et vous retournez au boulot. Les salariés resteront bien sous votre responsabilité. Donc, ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc, on ira. Alors, toutes les questions, que fait-on, nous, agents du conseil départemental dans les collèges ? Toutes les questions d'entretien, là aussi, il y a des procédures, des normes, habituellement, qu'il faut renforcer. Mais là aussi, les agents ne font pas tout et n'importe quoi. Ils sont habitués à respecter des consignes. Sur le volet de la restauration scolaire, là aussi, c'est pareil. Vous allez dans des cuisines de collège. Les agents sont habitués à travailler aussi en milieu très protecteur, à la fois pour eux et à la fois pour les aliments qu'ils transforment, qu'ils cuisinent. Voilà, ils ont des charlottes, ils ont des équipements spécifiques, là aussi des procédures très particulières d'hygiène pour éviter la contamination. Donc là aussi, je suis pas trop inquiète, je sais qu'ils sont en capacité de s'adapter, d'en faire un peu plus parce qu'il faudra en faire un peu plus, mais je n'ai pas trop d'inquiétude sur cette réouverture. Après, l'éducation nationale gérera ce qui est de cet afflux d'enfants dans des classes, de collégiens dans des classes, à voir comment ils vont s'organiser, mais à la limite, là, c'est plus mon problème, c'est celui d'éducation nationale. Donc on verra. On verra sur ce volet-là. Moi, je me dis que la prudence voudrait que les agents dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en télétravail, ils restent un peu en télétravail, à la limite, qu'on voit comment ça se passe, et puis qu'ils reviennent progressivement dans les espaces bureaux du conseil départemental. Si on peut faire, on peut faire ça de façon progressive, je pense que c'est aussi plus prudent. Ça nous permet là aussi de voir ce que nous pouvons faire en place pour bien les protéger, pour bien sécuriser les procédures aussi. Vous voyez, je suis un peu en système protection plus, mais je pense qu'il vaut mieux faire ainsi. Ce que je trouverais dommage, c'est que pendant 2 mois et demi, on ait pris les mesures qu'il fallait prendre, du mieux qu'on ait pu les faire, et puis qu'en 15 jours, on foute tout en l'air, quoi, et que du coup, on voit apparaître des cas de contamination parce qu'on n'aurait pas pris les mesures suffisantes. Donc en tout cas, nous, si on doit reprendre nos activités, on va le faire en concertation, on va le faire de façon raisonnée, raisonnable, pour là aussi assurer une fois encore la sécurité des agents, la continuité de nos services et puis la sécurité des usagers que nous serions appelés à de nouveau rencontrer.
Avec les différentes conditions évoquées par Emmanuel Macron Et par vous-même, on peut considérer que ce confinement annoncé pour le 11 mai est à prendre au conditionnel.
Me semble-t-il que c'est globalement la pensée des spécialistes, des médecins. Et en temps de crise, même si leurs avis sont parfois discordants, il me semble que ce sont eux qu'il faut écouter en priorité avant même les politiques, et les politiques doivent écouter ce que disent et pensent les experts pour assurer en effet le plus de prévention possible.
Valérie Simonet, je rappelle que vous êtes présidente du conseil départemental de la Creuse et que depuis le début du confinement, vous êtes également infirmière libérale présente sur le terrain. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
Je vous en prie. Et puis, écoutez, j'espère que les auditeurs sont très attentifs aussi à tout ce que les uns et les autres peuvent donner comme information. En tout cas, peut-être préciser aussi que nous sommes vraiment très présents de façon très simple et facilement accessible sur les réseaux sociaux, le conseil départemental, le service communication, où on relaie des informations, on partage, on répond à des questions. Là aussi, on essaie d'être le plus simple et le plus à l'écoute possible à la fois des habitants de ce département et des élus pour vraiment faire en sorte que tous ensemble, mais comme vous le faites vous aussi, les médias, être à l'écoute, solidaire et que nous soyons aussi tous ensemble pour mieux affronter cette épidémie. Voilà, donc merci à vous aussi.
Merci.
Bonne journée.
Merci Valérie Simonet, au revoir.